Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h04, on est dans le Super Moscato Show. On y revient, on mastique comme tous les jours. Vous savez qu'on est là de 15h à 18h, mais ça vous le savez, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à écouter la femme de Jack Sparrow, le Hollandais volant, Sarah Piposti, avec ce bandeau dans les cheveux, c'est Pirates des Caraïbes. Comment elle va?
Bah, ça va très bien, et toi?
Oh, mais quelle classe. Oh, toi t'es un mec sur Paris pour t'habiller comme ça, on dirait. Oh, non.
Je te remercie. Bah, c'est gentil, merci de m'aider.
Comment ça va, ma poulette?
Oh, très bien, et toi? Et toi, you speak English very well?
Not very well, well. Not bad.
Okay.
I'm from New York.
Are you from New York? From the Big Apple?
Oui, The Big Apple, tout ouais. À fait. Oh ben, y en a un qui parle couramment, mais lui, c'est plutôt avec un accent de sud du Miami. C'est Eric Dimeco, comment il va?
C'est ça, salut Vesa. Ouais, salut, salut Sarah, salut Pierrot.
Comment ça va? Mais alors, je vous ai réglé le hors-jeu, moi.
Ah ben oui, attends, il faudra qu'on raconte ça à Pierrot quand même, parce que... Non, mais dans le rugby, vous avez des génies, et ils règlent les problèmes du foot, donc bravo.
On n'a pas d'oseille, voilà. Mais on a des idées.
Mais de quoi parlez-vous, jeune Jean?
Je vous en parlais tout à l'heure, de la règle du hors-jeu avec un gars du rugby qui a inventé un truc.
C'est pas le hors-jeu, les mains, il a réglé le problème des mains dans la surface.
Dans la surface, de Vincent. Et pas de bras, pas de chocolat.
Mais de quoi parlez-vous, messieurs? Nous ne comprenons rien.
On ne comprend rien, là.
Vous parlez d'une conversation privée, c'est ça?
Alors vas-y Pierron, vas-y Eric.
Non, Vincent m'a mis en contact avec un de ses anciens coéquipiers qui a déposé un brevet pour, il a inventé un short avec qui te permet de t'entraîner en ayant les mains toujours collées quand tu défends. Donc pour régler le problème des mains dans la surface.
Qui te permet d'avoir les mains collées.
Ah. Oui, c'est-à-dire ça, il a des
génies, le mec a inventé un short. Alors, avec
une paire de menottes, on s'en sort aussi.
Non mais je vais te dire un truc, en plus.
C'est intéressant.
C'est plutôt pas mal, on va reparler. Et alors les mains collées et Pierrot, il y a un trou dans le short qui te permet de te gratter les aliments. Alors ça c'est le supplément.
Celui-là c'est le short de rugby, celui-là Pierrot, c'est pas celui du foot. Nous c'est pour pas faire des mains, c'est pour se gratter les aliments.
Pierrot, comment ça va, mon petit Pierrot?
Eh bien ça va très bien. On a une question moyenne. Alors elle est dirigée. Elle est sur l'OM, Eric, mais vous le cherchez en même temps. Hein. Vous cherchez quand même, non?
Si tu veux, à un moment donné, on ne peut plus pleurer. Quoi.
Bon. Alors, la question est la suivante. Attention, tenez-vous bien. Si l'OM n'avait pas viré De Zerbi, aurait-il pris plus de points qu'avec Habib Bey depuis?
Mais non,
c'est pas possible.
Pourquoi? C'est une bonne question quand même.
Même Mourinho, là, tu le mets à l'OM, il se suicide avec un élastique, il se fracture le crâne au plafond. Je te le jure.
Il se suicide avec un élastique.
Tu sais à qui il faut poser la question. Il faut poser aux gars qui sont sur le terrain, parce que c'est à eux de se demander comment ils sont liquéfiés en l'espace de 2 mois.
De Zerbi, c'est parce que ça n'allait plus. C'est par peur de la descente aux enfers. Bon, championnat 4 victoires, 4 défaites.
C'était pas la descente aux enfers, mais sauf que Pierrot, c'est ça le problème.
Là où ton raisonnement tient à ses limites, c'est que, et Flo nous l'a dit plusieurs fois, c'est plus De Zerbi qui a jeté l'éponge que
son vestiaire qui l'a lâché.
Non, son vestiaire l'avait pas lâché.
Si De Zerbi n'était pas parti, l'OM aura-t-il plus de points?
Pierrot, il était De Zerbi, qu'est-ce qu'il a fait, De Zerbi? Mais non, Eric, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit rien, les autres n'ont rien fait du tout. Alors tu te dis, annule, l'autre était un peu nul et demi, tu vois, ou un nul un peu moins. Donc peut-être qu'il aurait quelques points de plus. Mais arrête, et chaque fois c'était en dents de scie, il gagnait un match, le week-end d'après.
T'as raison, mais c'est en dents de scie, là, c'est pas en dents de scie, c'est en descente tout court.
Qui prennent 2-0 au vélodrome contre une équipe de.
Je pense qu'il avait encore le message et peut-être les mots pour tenir l'équipe jusqu'au bout.
Alors il y a une réponse vraiment qui se détache de très très loin. Vous répondez oui à 82%. Ça aurait été mieux de garder De Zerbi.
Ils auraient De Zerbi, là, ils seraient en train de brûler la voiture si tu restais là-bas, tu vois. Donc, arrête, un pyro.
Alors, 17h, on va parler d'Habib Bey, justement. Coupable ou victime, Habib Bey, de ce qui se passe à l'OM en ce moment?
Ils rigolent, quoi.
Non, mais ils rigolent parce que, tu sais quoi, comme à l'école, quand tu ne comprends pas la question, ils rigolaient. Quand le professeur est posé la question, ils rigolaient. Tu ne comprends pas la question,
À 16h, sans Vitinha, le PSG est-il aussi fort? Vitinha s'est blessé, Vincent règle problème. Et puis, pour commencer, du tennis. Arthur Fils et Loïs Boisson ont-ils trop de pression avant Roland Garros? La pression que leur met l'infâme Eric Salio. Journal moyen avec Julien Richard aujourd'hui. Et puis, dans le Kikadi, je vous rappelle, vous gagnez ce très beau cadeau. D'ailleurs, vous avez été nombreux à participer hier. C'est une semaine de vacances dans un camping Tikayan. Et les Tikayan, c'est bien foutu parce que vous avez le choix entre le camping club avec des animations, avec des parcs aquatiques, ou le camping zen, pour être zen, Vincent, dans le sud de la France. Et avant de démarrer sur le tennis, je vous rappelle qu'on vous offre l'expérience RMC. C'est un magnifique cadeau pour la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern. Vous avez deux places pour le match et les émissions d'RMC avant et après la rencontre. Pour cela, il faut attendre la musique de la Ligue des Champions et dès que ça sonne, eh bien, vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. Mais tout de suite, gagner Roland Garros pour un Français, ça peut faire perdre les pédales.
RMC, le Super Moscato Show.
Et c'est Marcel Bernard, le dernier vainqueur français de Roland Garros, qui remet le trophée à Yannick Noah.
Il a dit, je sais pas, mais vous Olivier Ferré, mais je crois que j'ai gagné le dernier match sur terre battue.
Depuis 1946, aucun Français n'avait fait ce geste.
En fait, il n'y en a pas, ça n'a jamais joué.
Les deux hommes se connaissent par cœur.
Ils ont quand même disputé chacun 9 finales de chelem commune. Donc,
deux façons de jouer antinomiques.
Mais les deux, Siadec et Salabalanta.
Yannick impose sa présence physique, il est le maître du cours.
9, c'est 3 fois...
Sur un terrain de tennis, tu mets que 2 personnes ou 4 éventuellement, tu divises par 2.
Vilander subit la rencontre.
Il est plus capable de mettre 2 pieds devant l'autre.
Noah tient Roland Garros à portée de raquette.
4x4, tu as 8 personnes, enfin 12 personnes qui peuvent jouer en même temps.
Noah la veut tellement cette victoire qu'il fait littéralement exploser Vilander avec son service.
Et il le dit, j'ai pas de regrets. Moi j'ai un regret.
6-2, 7-5, 7-6. Yannick Noah a réalisé son rêve.
Jean de La Fontaine, vous connaissez le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut arriver à point.
Breaking news. Non, mais ça va, quoi.
Suzanne m'avait prévenu. Je ne pensais pas. Eric, il va falloir qu'on s'entraîne parce que là, les 15 jours de Roland vont être très très longs.
Bonjour Eric Salio.
Bonjour à tous.
Monsieur Salio. Phénomène, vous êtes un phénomène, monsieur Salio.
Ne parle pas. Alors, le tennis français, d'ailleurs à l'image d'Eric Salio, est parcouru d'un vent d'enthousiasme à un mois de Roland-Garros. Et si Arthur Fils, et si Loïs Boisson, on a plein de fantasmes pour ces deux-là. Il y a des raisons d'y croire, puisque Loïs Boisson était demi-finaliste en 2025. Arthur Fils vient de gagner à Barcelone. Mais c'est vrai que l'un et l'autre reviennent d'une longue absence, et surtout qu'ils sont très jeunes. Ils n'ont pas encore connu ces vertiges-là, même si Loïs Boisson a fait son coup d'éclat l'an dernier. La pression de Roland-Garros parfois a déréglé les plus grands champions français, et notamment la plus grande, Amélie Mauresmo. Ouais. Raison pour laquelle on vous pose cette question, Loïs Boisson et Arthur Fils ont-ils les épaules pour y résister? Est-ce qu'on leur met pas déjà trop de pression, Vincent? 32-16 pour débattre avec nous. On va parler de Loïs Boisson, qu'on va enfin revoir aujourd'hui à Madrid, après presque une saison complète d'absence, Eric Salio.
Ouais.
Autant Arthur Fils arrive avec des certitudes, autant Loïs Boisson, elle est dans l'inconnu le plus total. Hein.
Oui, parce qu'on ne l'a plus revue sur un court depuis le 29 septembre dernier. C'était à Pékin, blessure à la cuisse. Ensuite, elle devait jouer les interclubs avec son nouveau club du TC Boulogne-Billancourt, mais elle venait de se faire des injections de plasma dans le genou. Et la grosse tuile, c'est fin novembre, lors de sa préparation à Barcelone. Une vive douleur à l'avant-bras droit, un diagnostic erroné. Des soins qui aggravent la blessure et elle en prend pour de longs mois, de quoi broyer du noir. Mais ce soir, elle va enfin rejouer sur sa terre battue chérie. Ça n'a pas de prix, même s'il y a un énorme point d'interrogation. Et pour Amélie Mauresmo, qu'on a rencontré il y a 5 jours, il faut qu'elle dédramatise le fait que les internationaux de France se profilent déjà.
Alors là, pour une fois,
c'est bien écrit, Pierrot, c'est bien écrit.
C'est très bien écrit, mais il écrit bien.
Écoutez Amélie, là.
Non, mais bravo.
On écoute Amélie.
Après, Loïs, elle a une expérience exceptionnelle l'année dernière qu'elle a déjà vécue quasiment. J'ai le sentiment pour elle qu'à partir du moment où elle est bien préparée, et c'est là où on ne sait pas trop où est-ce qu'elle en est effectivement de cette préparation-là, elle est capable, boum, comme ça, dès ses premiers matchs finalement, d'avoir un niveau déjà très élevé. Donc c'est l'inconnu, mais je pense que il faudrait pour elle dans sa tête qu'elle arrive à se dire que même si elle arrive un peu tard prête pour le tournoi, qu'elle est capable quand même d'aller très haut.
Voilà, le contre-la-montre, il est lancé. Louise Boisson aura la possibilité de jouer 4 tournois, Madrid donc, Rome, un petit tournoi, ça c'est une info exclusive Salio, petit tournoi à Parma du 11 au 16 mai, si ça se passe mal aux internationaux d'Italie, et probablement Strasbourg, dernier arrêt avant la Porte d'Auteuil.
Sarah, je sais pas ce que tu nous as dit tout à l'heure, il y a là un mec à Paris, ça, mais alors Eric, il y a un changement dans sa vie là récemment là.
Oui, je confirme.
Je sais pas si c'est la drogue ou quelque chose.
Non, il y a cette l'excitation de la prévision de Roland Garros.
T'as raison.
Tu sais, il prépare son short vert et il est parti.
Il s'est blessé ce matin en descendant du lit, en se prenant les pieds dans la couette.
Pieds dans la couette, j'ai une douleur horrible au niveau de la fesse droite.
Avec les vieux,
j'arrive plus à pédaler.
Le pire, c'est quand c'est ta femme qui se lève, qui te marche sur la couette, mais je vais te dire, ça fait très mal.
Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par Sarah Pitkowski, parce que Sarah, tu es entre guillemets inquiète pour Louise Boisson.
Oui, enfin en tout cas, un peu comme le disait Amélie Mauresmo là dans ce qu'on vient d'entendre, c'est cette grande inconnue. C'est normal que les projecteurs soient sur eux. Forcément, c'est nos deux numéros 1 français. Et pour diverses raisons, on a eu une épopée juste extraordinaire, inattendue de Louise Boisson l'année dernière sur une surface qui lui convient à merveille. Et de l'autre côté, pour Arthur Fils, c'est autre chose. Arthur, il a déjà touché les sommets l'année dernière. À l'époque au moment où on se parle, 14e mondial, et on était en train de miser pour son entrée dans le top 10. Donc en fait, ils ont une pression, mais elle est différente pour l'un comme pour l'autre. Je pense que Arthur, cette pression, c'est plutôt dans le fait de ses propres attentes. C'est-à-dire que là, avec ses derniers résultats et le fait d'avoir retrouvé un niveau de jeu qui est quasiment identique à l'année dernière, sauf qu'il a un an de plus, une expérience supplémentaire, une sérénité supplémentaire, et il a choisi un staff qui va le tirer vers le haut. Donc, je dirais que lui, cette pression, elle est différente. Et c'est la pression qui va se mettre, parce que je pense qu'il a de très grandes ambitions. Louise Boisson, en fait, elle est... Je vais faire une comparaison qui peut paraître un peu étrange. C'est comme dans un train. Un train. C'est-à-dire que Arthur Fils, lui, quand on le laisse l'année dernière, il était dans le premier wagon. Il était tout près de la locomotive. Elle a sauté dans le train du dernier wagon l'année dernière pendant Roland-Garros. Écoutez bien. Et elle était en train de grimper petit à petit. Elle a confirmé avec ce titre à Hambourg. Mais le problème, c'est qu'elle est descendue du train et que le circuit, pendant ce temps-là, il avance, il progresse. Et elle a aucune certitude, aucune expérience. Et tout ce qu'elle va jouer maintenant, c'est des choses qu'elle n'a jamais jouées. Tous ces tournois, elle les a
le
pas joués. je ne sais pas. Il faudrait mieux pas qu'elle s'arrête au bar. Tu vois, il vaut mieux pas qu'elle s'arrête au bar.
Parce qu'eux aussi, ils font souvent le petit trail, les baristas.
Alors, tu veux dire en fait qu'on la voit comme une demi-finaliste de Schlem, alors qu'elle n'en a peut-être pas encore les épaules.
Mais elle peut pas les avoir. Elle n'a pas assez d'expérience, de vécu sur un premier circuit. Elle n'a pas ce vécu derrière des joueuses à qui elle a fait peur pendant l'espace de 2 mois, parce qu'aujourd'hui je peux te dire que les joueuses, elles l'ont complètement oublié. C'est-à-dire que t'es plus là pendant le circuit pendant 6 mois, oublié. Les filles qu'elle a jouées l'année dernière, mais elles vont l'attendre avec le couteau entre les dents, et c'est pas la Louise Boisson qui faisait tourner la balle et qui te faisait faire des kilomètres et des kilomètres. Donc en fait, nous, on a l'étiquette d'une demi-finaliste, mais ses adversaires, elles, rien à faire. Donc c'est ça où il y a une grande inconnue, et je lui souhaite de rester dans le présent et finalement de ne pas avoir le résultat comme une finalité,
comme une obligation.
C'est-à-dire que qu'elle gagne ou qu'elle perde, il va falloir être super indulgent avec elle, et franchement c'est un message que donne à tous les médias, les réseaux sociaux, soyons indulgents. Elle n'a pas encore la trempe du classement qu'elle avait
est-ce que tu as compris ce que le message de Sarah, tu vas pas l'embêter si elle sort au troisième tour, Louise Boisson?
Non, mais bien entendu. Moi, je pense que c'est pour les deux, Arthur Fils et pour la petite boisseuse, c'est comme s'ils montaient dans un bus, Pierrot. et que le bus n'arrive pas à trouver Roland Garros, tu vois. Donc, ils jouent, ils n'y arrivent pas, ils ne trouvent pas, ils tournent autour. Ils n'y arrivent pas. Ils vont par des presses. Non, vous avez vu Roland Garros, moi, ils s'en vont.
J'ai essayé de te donner une image pour que tu comprennes.
Mais non, pas mais plus sérieux. Voilà, non, mais dis-le qu'il est le nœud que tu es obligé d'avoir. Les histoires du train. L'histoire du train n'a rien compris du tout, ça n'a rien à voir. Et donc, Sarah, écoute-moi, je pense que la petite boisson, aucune pression. Là, je vais te dire un truc, personne ne l'attend. Elle a été blessée depuis le mois de septembre. L'an dernier, elle arrive en demi-finale. Mais c'est un peu, je vais te faire une comparaison, pas avec un train, je vais te faire une comparaison sportive. C'est un peu Bayonne qui fait une demi-finale l'an dernier. Bon, tu sais pas si ça va continuer. C'est un peu un coup de, voilà, ils étaient en bourre au bon moment, ils sont trouvés là, deux faux témoins, boum, ils font une demi-finale, l'année d'après, ils se qualifient pas. On attend de voir. Donc, elle participe, c'est déjà bien, là, c'est Coubertin pour la petite boisson. Participe, et puis on verra ton état de forme. Par contre, le petit Arthur, c'est pas pareil. Arthur, il a plus la pression parce qu'il veut faire quelque chose. Lui, intrinsèquement, il va se la mettre, la pression, parce qu'il veut. Il veut gagner. Il veut gagner. Il veut aller en demi-finale. Quand je te dis gagner, il veut pour la première fois être dans le dernier carré. Et ça va être une pression, mais une pression qui va être plein badin. C'est-à-dire que là, en ayant gagné Barcelone, on va voir ce qu'il va faire à Madrid et tout ça. Je sais pas s'il est à Madrid. Mais bon, lui, on attend quelque chose. C'est-à-dire que la France attend quelque chose de lui. La France du tennis, les supporters, on attend quelque chose. Donc lui, pression, bien sûr. Mais la petite boisson, non. Non, il n'y a aucune pression. Déjà qu'elle participe, déjà, ce serait bien qu'elle arrive à courir un peu. Puis voilà,
le problème, Vincent, c'est que le public l'a découverte l'an dernier à Roland-Garros. Ouais. On ne l'a vu qu'une seule fois. C'est à Roland-Garros, elle est allée en demi-finale. Donc, dans l'esprit des gens, c'est une demi-finaliste de Roland-Garros. Et ça n'est que ça, parce qu'on ne l'a jamais vue avant. Avant, elle n'était pas suffisamment connue pour être suivie, ni après. C'est ça qui va lui foutre un max de pression.
Oh non, Eric, non, moi je crois pas, non.
Non, non, moi, d'abord, il faut différencier les deux. Je suis d'accord sur ça. La petite boisson, elle a tout à gagner, parce qu'on l'a découverte l'an dernier, mais elle a disparu depuis, alors avec ses problèmes. Mais là, elle arrive tranquille. Il y a personne qui va lui reprocher quoi que ce soit. Après, Arthur Fils, je suis partagé parce que on voit qu'il est en train de progresser. On voit qu'il y vient. Hier, vous en avez parlé comme d'un futur demi-finaliste.
Il a eu la pression.
Oui. Sauf que
depuis il a déjà le temps vécu.
Depuis le temps que les Français à Roland Garros nous déçoivent. Combien de fois on s'est fait des deuxièmes semaines sans Français à Roland-Garros?
C'est la norme maintenant.
C'est pas la pression par rapport aux autres, c'est par rapport à ses propres résultats, à lui-même. Oui, il va avoir la main qui tremble un peu de temps en temps quand même.
Moi je trouve qu'il a pris une dimension où, d'après moi, il va arriver en deuxième semaine tranquille. Et après, il y aura la limite peut-être sportive qui va arriver. Et encore. Moi, je vois pas de grosse pression. Ils sont pas favoris. On n'a pas de mec qui arrive régulièrement en quart, voire en demi-finale. C'est tout bonus pour les deux. Et on attend beaucoup plus de fils, bien sûr.
Il y en a qui ne se sont jamais sortis de ce moment particulier qu'est Roland Garros. Pour un joueur de tennis ou une joueuse de tennis français. Eric, on évoquait Amélie Mauresmo tout à l'heure.
C'est l'exemple parfait.
C'est quand même, elle a quoi? Deux grands chelems à son palmarès, c'est oui, Amélie. Bon, et bien Roland Garros, c'est toujours blocage. Été mentalement le problème.
Blocage, alors que.
Non, mais blocage, mentalement ou quand vous dites blocage?
Mais mental.
Non, mais voilà. Mais pourquoi vous dites blocage?
Parce que tu gagnes Rome ou Berlin avant et que tu arrives avec une étiquette de favori.
Parce qu'il y a des matchs où elle est passée au travers, en fait. C'est pas son adversaire qui l'a battue. Elle a eu des matchs.
Est-ce que c'était parce qu'elle était à Roland Garros, non?
Oui, bien sûr.
Roland, ouais.
Oui, mais elle le disait, c'est qu'elle avait du mal à gérer les attaques. Attente en fait, plus que la pression, parce que la pression tu peux te la mettre tout seul. Ce sont les attentes qui sont difficiles à gérer.
Fils et Loïs Boisson ont-ils trop de pression avant Roland Garros? Nous accueillons Lionel au 32-16. Lionel, un petit problème sur la ligne, j'ai l'impression. On t'entend, mais ça grésille.
T'as une abeille dans la bouche.
Ouais, peut-être, c'est normal parce que nous dans le sud il fait très beau. Je vous appelle de Mouka.
De bouger, ça les privilégiés.
On a un temps magnifique et puis à l'inverse Marseille, on n'a pas de bande.
Oui. Eh bien, à New York aussi. Voilà.
Alors,
c'est avant 22 ce matin.
J'ai promis
Charles.
petit bisou à Marc Benamoul, président du club de volley, qui joue aussi au tennis, qui est dans le même club.
Monsieur Benamoul, moi, salut.
Par contre, on a un vrai problème avec la ligne, là. Hein.
Non, mais ouais, t'es une ruche qu'on a dans la bouche. Quand.
Et là, ça va mieux ?
Ah, bah d'accord. Ah, en plus, t'avais la solution.
Vas-y, on t'écoute. Donc, en fait, je partage pas trop votre avis sur la pression. Parce qu'en fait, autant je pense qu'Arthur Fils, ça n'a pas un problème de pression, parce que lui, je pense qu'il la gère, bien. Par contre, c'est un problème physique, parce qu'il n'a pas encore prouvé ses résultats sur Grand Chelem. Je pense que ce week-end, sur Stephen Branch, il y avait le débat top 5 potentiel tennistique.
Donc, pas des grosses émissions, là, s'il te plaît.
C'est évident qu'il a le top 5 niveau tennistique.
Pas des émissions.
Maintenant, sur un Grand Chelem, ça n'a plus rien à voir. Je me rappelle que Davidenko, il se plaignait d'ailleurs qu'en Grand Chelem, c'était trop long pour lui, aussi bien physique que mental. Mm-hmm. Je pense que la pression, par contre, Louise Boisson, elle va vraiment l'avoir, parce que Sarah peut le témoigner, et c'est souvent beaucoup plus difficile chez les filles. L'aspect mental prend une grosse proportion sur le tennis. J'avais un copain que je salue, Chris Fico, qui a accompagné Vic Mayer. Il me racontait les états d'âme des filles. C'est impressionnant.
Parce que t'as l'impression que chez les mecs, ça joue pas la
pas
pression
autant,
et le mental.
Sincèrement, pas autant.
Là, t'es dans un cliché qui correspond pas, je pense, au standard du haut niveau. Hein. Des garçons qui ont subi la pression, on a des
dizaines. Mayer, elle a été 20e mondiale, hein, donc il a bien accompagné. Mais je pense que malheureusement, Louise Boisson, tennistiquement, elle a prouvé qu'elle était assez complète sur terre battue. Plus ça va avancer, le public va quand même l'attendre. On verra. J'ai plus peur pour Louise Boisson que pour Arthur Fils. Fils, franchement, mon humble avis, ça va être surtout physique. Et Eric peut le témoigner.
Tu peux en témoigner.
Pas sur Eric,
physique.
On a une inconnue sur les longs matchs avec Arthur. Mais je suis un peu d'accord avec.
C'est Lionel.
Lionel, parce que chez les filles, il n'y a que 2-7. Donc tu peux vite céder à la panique. Toi, si tu vas le premier, tout de suite, tu peux broyer du noir parce que tu dis, oula, je vais jamais me rétablir. Mm-hmm. Et Louise, on n'en a pas parlé, mais effectivement, si elle perd au premier tour, c'est le gadin au classement.
Il y a 1000 points à défendre. Sur un tournant.
Conclusion de Thibaut Murat sur Twitter, hashtag RMC Live. Fils et Boisson, ce sont des bénédictions pour Vincent, pour une fois qu'il peut prononcer correctement le nom d'un joueur de tennis. Ben c'est vrai, fils et Boisson, t'as pas le droit à l'erreur, là, quand même. Hein. On va pas se mentir. L'alerte Ligue des Champions, c'est maintenant. Vous avez 5 minutes et pas une de plus pour envoyer PSG par SMS au 7-32-16 et peut-être gagner l'expérience RMC à l'occasion de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre Paris et le Bayern. Les deux places pour le match et les émissions d'RMC avant et après la rencontre. Vous assisterez notamment aux coulisses de l'after. Nous, on vous emmène dans les coulisses de la préparation olympique de Paris 2024 avec toute l'aventure et tous les petites histoires et les petits secrets de Claude Onesta qui a géré la préparation olympique de l'équipe de France. À tout de suite.
Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h29, on y revient au mastic dans le Super Moscato Show. Vous savez qu'on est là tous les jours, 15h, 18h. Sarah Piposki est avec nous, Eric Dimeco, au petit Pierrot, dans demi-heure.
Alors,
dit en
dans
catalan.
Une demi-heure. Nous allons parler du Paris Saint-Germain sans Vitinha. Le PSG est-il aussi fort ? Blessure de Vitinha, ouais. Incertitude pour la Ligue des Champions. Mais tout de suite, Vincent, un petit bond en arrière. On reparle des Jeux de Paris 2024.
RMC,
le cri du cœur du super Moscato Show.
C'est un personnage qui a accompagné le Moscato Show depuis ses débuts, il y a une vingtaine d'années. Claude Onesta dans le super Moscato Show. Salut Claude.
Salut.
Comment ça va,
Claude?
Bonjour.
Ça va, mais ça. On m'a dit que t'avais le droit à des vacances. Change pas de métier.
Moi, je travaille pour les. Moi, je suis un mec de gauche. Hein. Moi, j'ai 35 heures. Attends.
Et les RTT. Alors, Claude, évidemment, avec le palmarès long comme le bras avec l'équipe de France de handball, mais aussi l'ancien manager général de la haute performance à l'Agence nationale du sport. Alors, c'est un titre. Un peu pompeux, hein, Claude, mais qui est très simple. Tu as été chargé d'une mission très claire de faire performer les équipes de France Olympique à Paris 2024. Et tu racontes ça dans un bouquin qui s'appelle « Performer la méthode ». Et alors, je vais te donner le pitch et tu me dis si tu es d'accord avec moi. On pense que préparer les JO à domicile à Paris, c'est un régal, alors que ça a été tout le contraire. C'est un peu ce que tu racontes dans ce bouquin.
Oui, parce que les jeunes n'ont vécu des jeux que que les moments enchantés et magnifiques de la compétition. Nous, on a vécu tout le reste en coulisses et tout ce qu'il a fallu faire avant pour pouvoir s'enthousiasmer après.
Alors, tu dis notamment que tu as fait face à des résistances énormes que tu détailles dans le livre et peut-être auxquelles tu ne t'attendais pas. Alors, pour faire juste un petit retour chronologique, tu es chargé par Laura Flessel, ministre des Sports, de faire un état des lieux du sport olympique français à la sortie des Jeux de Rio 2016. Ça aboutira quelques années plus tard à la création de l'Agence nationale du sport qui existe toujours du coup. Mais tu expliques que pour mettre en place tes idées, donc tu t'es heurté à de nombreuses résistances. Alors je donne juste un exemple parce que il est drôle. On connaît le personnage Jean-Luc Rouget, Vincent, donc personnage très important du sport olympique français, champion du monde de judo, le premier français champion du monde de judo et président de la Fédération Française de Judo, très influent. Et donc, tu expliques dans une réunion avec tous les présidents de Fédé qu'on va faire différemment, qu'on va changer la méthode et qu'il va se passer des choses auxquelles ils ne sont pas habitués. Puis Jean-Luc Rouget se lève, il te dit « Tu sais, tous tes trucs, on n'en a rien à foutre. Le seul point qui nous intéresse, c'est le chiffre en bas à droite. » C'est-à-dire combien on va toucher, en gros. Ah ouais. Ça, c'est réel.
Oui, non, mais c'est réel. Et surtout que moi, je connaissais tous ces gens-là, je les connaissais pour les avoir côtoyés dans le champ sportif. Donc, j'étais un emmerdeur, mais quand même un emmerdeur de la famille. Je peux pas dire qu'on ait eu à ferrailler, puisque aux élections qui ont suivi, il s'est fait débarquer. Donc, je l'ai pas eu en face de moi, mais d'une certaine façon, l'important c'était ni lui ni moi, c'était le judo et les résultats du judo.
Mais ce qui peut être intéressant, c'est est-ce que finalement la performance, elle est forcément liée aux investissements pécunier qu'il faut faire, parce que ça n'a pas été que votre rôle. Il y a eu, au-delà de donner de l'argent, plus d'argent, il y avait aussi la construction d'une méthode, de s'entraîner différemment, de rassembler aussi différemment. Il y a des choses qu'on peut faire qui n'est pas uniquement une ligne avec plusieurs zéros.
Trouver le pharmacien qui va bien, trouver des produits où tu ne te fais pas choper. C'est pas facile tout ça quand même.
Non, mais franchement, je pense que le monde du sport, c'est facile de dire si j'avais plus de moyens, j'aurais plus de résultats. Moi, pour avoir bien analysé les situations, je sais qu'il y a des gens, on pouvait leur doubler les moyens, ils n'auront pas plus de résultats parce qu'ils n'ont pas de savoir-faire, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de culture, Donc ça veut dire qu'il y a un moment où il faut être capable de bien analyser quels sont les éléments qui projettent la défaite et essayer de travailler dessus pour s'en éloigner. Et donc, c'est ce qu'on s'est appliqué à faire avec chacune des fédérations. Encore une fois, moi, je suis pas spécialiste dans tous les sports, loin s'en faut. Mais par contre...
expertise de la victoire, quand même.
Oui, l'expérience que j'avais m'identifiait un peu ce qui marche et ce qui marche pas bien. Et donc, de temps en temps, on a beaucoup mobilisé de moyens, d'outils, on a investi sur beaucoup de choses nouvelles. Donc, ça veut dire qu'on a mené beaucoup plus de qualité autour des athlètes. Par contre, de temps en temps, on soulevait le tapis et on montrait la poussière que tout le monde avait planqué dessous et qu'il fallait sortir pour véritablement espérer progresser.
En gros, si on parle de l'aspect budgétaire, il y avait des subventions ou autres qui, pour toi, soit ne servaient pas à grand-chose, soit compensaient un déficit structurel et du coup, ça donnait une usine à gaz un peu handicapante que tu as voulu un peu remettre à zéro. Et donc, tu as dit à des présidents de Fédé ou à des structures, ça c'est fini et puis maintenant on va fonctionner comme ça. Alors, tu expliques dans le bouquin que tu y allais avec ton caractère, c'est-à-dire frontal, combatif, quand parfois il faut peut-être être un peu plus rond et consensuel.
C'est pas bien, Pierrot, de parler de Madame Arnaud comme ça, quand même, c'est les concurrents. C'est pas joli, ça, Pierrot.
Alors, si je résume, alors bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais tu as identifié trois axes pour 2024. Alors, ce que tu appelles les cellules de performance, c'est-à-dire que vous avez créé des cellules autour des potentiels d'athlètes médaillables sur qui on a investi. Il y a aussi des fédérations ont été priorisés par rapport à d'autres, et puis un plan pour les coachs pour à la fois améliorer les compétences, mais aussi se renouveler, c'est-à-dire faire venir des compétences extérieures. Et il y a quelque chose qui n'est pas passé, c'est que parfois tu as fait des choix qui étaient en contradiction totale avec la culture française, et notamment en s'inspirant de ce qu'ont fait les Britanniques à Londres, c'est-à-dire cibler les plus forts potentiels et les soutenir à fond, ce qui n'est pas trop dans notre culture. On avait plutôt une culture à élargir une base et essayer et espérer que qu'on émerge des forts potentiels.
Bah, comme je n'étais pas fou et que je connaissais quand même le milieu, j'ai veillé à ne pas enlever à tous pour ne donner qu'à l'élite. Puisque 75% des moyens qu'on a distribués aux sportifs, même à la fin des Jeux, étaient allés à des sportifs de haut niveau, mais qu'on peut considérer comme non médaillables au niveau international. Donc ça veut dire qu'on n'a pas déshabillé les uns pour donner aux autres, on est allé chercher des budgets complémentaires pour mieux gérer nos champions ou ceux qui étaient en passe de le devenir. Et ça, je pense que le système français est plutôt bien organisé pour prendre un gamin qui a...
Il y a moyen de faire du black, là, dedans.
Non, pas trop, mais
un peu, quand même.
Bah, il y a ceux qui savent le faire sans se faire prendre, c'est tout, mais...
Bah, nous, on a des experts, là.
Non, mais ça marche bien, le black, ils savent faire.
Moi, j'ai une question par rapport à l'organisation du sport. Alors, Pierre le disait, l'ANS a été créée en prévision de Paris 2024. Aujourd'hui, on se retrouve avec trois institutions que sont le ministère des Sports, le CNOSF et l'ANS. Et quand on sait que notre pays est quand même très administratif et avec des lourdeurs, moi, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que ces trois entités ne se marchent pas un peu, exactement, se marchent pas un peu sur les pieds, que finalement, ça fait beaucoup d'administration, et est-ce que ça, c'est pas aussi un frein aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait pas simplifier ça pour qu'on puisse viser encore mieux, parce qu'on a Los Angeles 2028, on a Alpes 2030. En tout cas, de l'extérieur, on a l'impression que ça alourdit encore les choses. Est-ce qu'il n'y a pas une institution en trop ou est-ce qu'il n'y a pas des fusions à faire?
Alors, les fusions, c'est tout compte fait ce qu'on avait précédemment. Donc, on avait un ministère qui décidait de tout ou de pas grand-chose. On avait un CNO qui était le représentant du sport olympique et à ce titre-là qui est en charge de veiller à organiser les compétitions. Ils servent, mais je pense que ce qu'on a créé, c'était au travers de l'agence. Moi, j'avais 30 personnes avec moi qui tous avaient été ou champions du monde dans leur parcours d'athlète ou dans leur parcours de coach. Donc, globalement,
privatiser tout ça.
Donc, ces gens-là savaient de quoi ils parlaient. Le problème, c'est qu'effectivement, si vous me demandez mon avis, s'il y en a un en trop, c'est celui qui n'est pas productif.
Oui.
Bon, et donc celui qui n'est pas productif aujourd'hui, c'est celui...
Qui est politique, 100% oui, mais... politique.
Non, mais il y a encore une fois, le sport c'est quoi? C'est le sport, c'est pratiquement 20 millions de personnes qui œuvrent, je dirais, toutes les semaines. Donc forcément que c'est complexe et c'est multiple. Mais le sport de haut niveau, il répond à des logiques spécifiques. Le sport initial, parce que le sport de haut niveau, les gens ils tombent pas des nuages pour faire des champions. Ils sont bien nés dans des petits clubs avec des éducateurs et tout ça, ça se construit. Donc je pense qu'effectivement, le ministère n'est pas adapté pour gérer ces problématiques spécifiques du sport dans les fédérations. Par contre, les politiques publiques, c'est autre chose. Ils ont leur place tout à fait.
Claude Onesta dans le Super Moscato Show.
Ça fait un peu Kremlin, tout ça, quand même. Ces ministères, tout ça, c'est quand même très, très communiste. Moi, je ne supporte pas. L'État sur de l'État et de l'État, ça ne supporte pas parce qu'il y a toujours qui paye à la sortie.
Ça m'étonne pas que tu sois parti à New York pour les vacances, toi. Ah, tu t'es rapproché de
la maison mère.
De notre Dieu, ce n'est pas celui de l'État.
J'ai ma casquette. Par contre, j'ai un problème, je vous entends pas parce que avec les écouteurs, j'ai ma casquette MAGA, j'arrive pas à mettre mes écouteurs dessus.
Alors, tiens, pour ceux qui se sont régalés des JO, il y a un chapitre qui est très savoureux sur les cas individuels. Tu racontes en quelques lignes, hein, Antoine Dupont, Teddy Riner, Florent Manodou, Léon Marchand. Donc ça, allez-y, dévorez-le parce qu'on apprend des petites choses très sympas. Et puis, tu fais une référence à Kylian Mbappé. Là, je veux en savoir plus. Kylian Mbappé au JO, ça n'était qu'un effet d'annonce. Tu penses que ça n'a jamais été quelque chose de sérieux? C'est ce que tu sous-entends plus ou moins?
Non, mais j'en sais rien. Je sais pas, mais effectivement, on en a parlé. Lui-même en a parlé.
T'as jamais rien vu de concret, en tout cas.
Bah, je me suis dit que si, avec la notoriété qu'il a, s'il avait voulu mettre dans son contrat qu'il était libre
Il aurait pu.
Il aurait pu le faire, et je vois mal le Real Madrid qui le recrutait lui interdire de faire les Jeux. Mmh. À la mesure où, en plus, les Espagnols font, donc ça veut dire que si vraiment il avait voulu le faire, et c'est ce qu'a fait Antoine Dupont, il voulait le faire et il s'est tout a été organisé pour qu'il puisse le faire. Bon, je pense que pour quelles sont les raisons précises qui ont fait que Kylian Mbappé n'y est pas allé, j'en sais rien. Mais d'évidence, s'il avait vraiment voulu se battre pour y aller, il serait allé.
Allez, pour terminer,
tu te heurtes. Un petit cadeau. Tu te heurtes à des fédérations. Il y a des fédérations comme le judo, tout ça. Tu te heurtes avec eux parce que eux ont déjà réussi. Donc c'est difficile à toi de t'imposer là-dedans, non?
Non, mais j'ai pas voulu m'imposer. Les fédérations.
Mais si tu veux diriger, faut t'imposer.
Non, mais j'avais pas à diriger à la place des dirigeants. J'avais juste à mettre, je dirais,
en route. Tu t'es battu avec Teddy Riner, mais on me raconte de nous, ça.
Non, je ne suis pas. Teddy Riner, je lui ai organisé une préparation ou que la fédération essayait de lui refuser. Donc, il voulait une préparation spécifique. La fédération disait non, non, l'organisation, elle est habituelle. Bon, et on a réussi, en discutant à trois, à trouver la bonne formule. Donc Teddy, je ne l'ai plus aidé. Par contre, quand Teddy dit des conneries sur un plateau de télévision...
Ça t'a pas plu qu'ils disent qu'on n'est pas un pays de sport?
Parce que c'est une connerie. Mmh. Que tout soit pas résolu, c'est une chose. Mais moi, je le dis dans le livre, combien tous ces sportifs qui disent qu'on n'est pas une grande nation de sport... Bon, combien leur a coûté depuis l'âge de 10 ans leur pratique sportive?
Tiens, regarde, on va te donner quelques chiffres pour donner une idée de ce qu'est le sport de haut niveau en France. C'est 15 000 athlètes sur les listes de haut niveau, donc qui ont un soutien de l'État. 5 000 seulement dans ces 15 000 qui sont sur les listes du ministère, c'est-à-dire des aides encore supérieures. Mais il y a aussi 7 000 athlètes qui sont dans des structures de haut niveau sans aucune aide et donc qui ne font pas partie de ces listes. Et donc sur les cellules de performance, les 600 athlètes qui ont été identifiés comme des très forts potentiels, c'est ça qui a été finalement le, entre guillemets, l'élite de ceux qui ont préparé les Jeux Olympiques de Paris. Claude, merci beaucoup. Pour finir, Claude, j'ai un petit cadeau, c'est Vincent Moscato qui va te donner le nom du nouveau sélectionneur d'équipe de France de handball.
Oh non, aussi, t'es un enfoiré de Tchoubaïev.
Mais bien, mais ça y est, c'est rentré. Bon, bravo.
Mais bien sûr, mais Olivier Kremel, où il est, lui, Kremel. Je m'en souviens, ça, c'est la tarte anglaise. La tarte anglaise, tu sais, le dessert. À la retraite,
merci,
le vieux.
Claude, bon, tu vas voir.
Là, c'est un gueulard, lui.
Claude Onesta performait la méthode au cœur de la stratégie gagnante des JO de Paris 2024.
Merci, Claude.
Dans un instant, journal moyen, d'abord, on parie sur
RMC. Le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Johan Bredoff, on t'écoute. La Coupe de France au programme. Salut à tous. Lens est favori ce soir face à Toulouse, 21h10 sur RMC. 1,52 la victoire lensoise, 4,30 le match nul, 5,50 la victoire de Toulouse. Les deux équipes qui se retrouvent après leur match en Ligue 1.
Alors Vincent, Lens-Toulouse, ça fait 3-2 en championnat avec une remontada de Lens. Ouais.
Bah...
Faut jouer Toulouse, là, je pense. La qualif de Toulouse.
Tu crois?
Ouais. Ah ouais?
Allez.
C'est le match emmerdant par excellence.
3,50 la qualif de Toulouse.
C'est fait. Allez, vas-y. Eric.
Alors, moi, je mets la victoire de Lens avec les deux équipes qui marquent.
Voilà. Et ça permet d'avoir une cote à 2,40.
Merci, Johan.
Pique du mec qui connaît pas.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Dans un instant, journal moyen. Et puis à 16h, sans Vitinha, le PSG est-il aussi fort? À tout de suite, c'est le Super Moscato Show. Vous êtes sur RMC.
Allez, il est 15h44. On revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h48, on y revient au Massif de Super Moscato Show, c'est le journal moyen de Julien Richard, première édition.
La première édition du journal moyen, l'actu de la culture, salut Vincent, l'actu des médias, Big Flea, Olfi seront là, hein, avec en guest Antoine Dupont et Thomas Ramos, et on aura également un crocodile, des robots qui courent vite et de l'or en barre. Vous écoutez RMC, c'est le 2624e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
D'abord, un petit détour, ce rapide, chez nos amis des Grandes Gueules.
Sincèrement, la désinsulation a commencé, on va dire, sous Mitterrand.
Olivier Truchot aux manettes cette semaine.
Ça, c'est le glissade.
Pas mal, cela. Plus de 20 ans qu'il présente les Grandes Gueules, hein, avec Alain Marchal. Alain, il est en vacances cette semaine, mais bon, ça va, Olivier, il n'a pas besoin de lui. Il connaît la mécanique par cœur.
Bruno Retailleau veut mettre au banc des nations européennes l'Espagne du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Pourquoi ? Parce que l'Espagne veut régulariser 500 000 sans-papiers pour soutenir l'économie de son pays. Ah, ben la virgule est passée, je croyais qu'on ne l'avait pas passée. Ah non, elle est passée. Donc on continue, on enchaîne. Donc, 500 000.
La magie du direct.
Oui, t'as vu, j'ai attendu.
Cette magie-là, elle n'arriverait pas chez nous. Enfin,
c'est un grand professionnel, voilà. C'est CNN.
L'émission a commencé.
Oui. Tu sais que tu l'as, la voix de Phil Quelcro. Je n'arrive pas à le faire.
On a commencé.
Oui, c'est tu l'as pas. Mais t'es pas cramé, non plus.
Incroyable.
Bon, le pauvre, il est cramé complet.
Sans transition, direction Toulouse.
Non, mais ils sont pas bons. Bock et Olfi.
Allez, les stars Toulouse. Bock et Olfi sont trois, en fait.
Oui.
J'ai du mal à identifier qui ils sont exactement.
Il y a Big Fi, il y a Bock et il y a Olfi.
Oui, mais parce que dedans, on glisse le père qui s'appelle Bock.
Ah, c'est pour ça. Voilà. Grand portrait de Big Flo et Oli, les rappeurs toulousains qui sortent un nouvel album, Karma. C'était dans 20h30 le dimanche sur France 2, dimanche dernier, donc présenté par Laurent Delahousse, la mèche plus impeccable que jamais, et en plus à l'air libre, parce que c'était tourné sur place à Toulouse. En gros, ils sont allés dans les endroits qui comptent pour les deux rappeurs. Ah, et ouais. Ça commence par le stade Ernest Vallon pendant un entraînement du stade toulousain.
Ici, on est au stade Ernest Vallon. Je pense que les vrais de vrais n'auront reconnu rien qu'au siège.
C'est ce qu'on dit, on dit jeu de main, jeu de Toulousain. C'est
jeu de Toulousain. Oli a toujours été un très très grand fan et supporter du stade toulousain.
Et oui, Oli a toujours été un grand fan. Alors il nous explique pourquoi, qu'il avait les posters et tout. Ouais, il avait les posters dans sa chambre. Jouer, je suis pas sûr.
Ils ont joué tous les deux, bien sûr, en deuxième ligne, les deux.
Ah oui, c'est ça, j'avais te demandé à quel poste justement.
La seconde de l'autre.
C'est ça. Et Laurent Delahousse, il se chauffe du coup, parce qu'il voit qu'ils sont fans de rugby les deux, donc il y va pour un petit quiz, notamment pour Oli.
Combien de titres de champion de France ?
Oh, putain, on ne fait pas ça.
J'allais parler de rugby on est des rugbyx.
Mais toi, t'as des fiches, ouais. Laurent, t'as des fiches.
Bah oui, il a des fiches, mais vous l'avez pas. Vous avez des fiches aussi, vous. Combien de titres, Vincent ?
Ah, 24.
Oh, non. Depuis le début. Ouais, une vingtaine, ouais, oui. Plus de 20.
Ouais. 24, c'était la bonne réponse, Pierrot.
Ah, 24, ouais, plus de 20, ouais.
Il a déjà un point pour le Kikadi ou pas,
Pierrot ? Non, ça mériterait. Non.
Bah non, parce que plus de 20, ça marche pas.
Hein. Exactement. Fin de l'entraînement, ils rejoignent Antoine Dupont et Thomas Ramos sur la pelouse, quand même des guests de qualité. Oli et Antoine Dupont qui sont très potes.
Comme il disait, vu qu'on est les mêmes générations, on se ressent un peu les mêmes problématiques. On a des parcours qui sont différents, mais qui ont des similarités. Toujours cet amour pour Toulouse, mais aussi aimer la vie parisienne et ce qu'elle peut nous faire découvrir.
C'est mon amitié préférée, ces deux-là. Là.
C'est vrai.
Quand ils sont ensemble, parce que là t'as la version télé.
Ouais. C'est-à-dire,
un petit peu, parce que là, ils présentent bien sur tous les deux. Mais tu les vois, là, quand les vraies discussions, on va dire, c'est quelque chose à voir.
Mais ils sont vraiment potes, les deux, tu vois. Et ils aiment visiblement aussi tous les deux.
Ça aime la vie parisienne, hein, quand même. Hein.
Ah ouais. Étonnant.
Toi, non, Vincent. Donc, quand t'es arrivé de Gaillac, en gros, la vie parisienne.
Ça sortait le soir torse nu avec le perfecto, mais ça aimait pas la nuit parisienne. Non, ça me plaisait. J'étais timide au début, mais ça n'a pas duré longtemps.
Une fin de la séquence, tu tapes des petites pénalités, c'est hyper sympa. 15 mètres face au poteau. Bam, ça passe pour Laurent Delahousse. Incroyable. Et ça passe un peu moins pour Oli.
Tu veux mes crampons ?
C'est très dur.
44.
Crampons, prêtés par Toto, coaché par Ramos. Ça peut le faire. Sur le regard de Laurent.
Non, ça c'est pas du tout. Complètement foiré.
15 mètres face au poteau, n'importe qui y arrive, Vincent, non ?
Ah ouais, normalement. Même toi, Pierrot, y arrives.
Ah oui, franchement, oui.
Ah, il avait une chaussure d'Antoine Dupont, tu vois.
À 15 mètres, ouais. Des fois, tu loupes le ballon. Hein. Moi, j'en ai vu, moi. Des mecs tapés, tu loupes le ballon.
Non. Direction...
Mais là, je parle pour lui.
Le Nord, dans le journal moyen.
Au Nord, c'était les colons.
C'est pas possible, toi. Ça veut dire que Pascal, toute sa vie, il a pensé que sa chanson c'était au Nord, c'était les colons.
Ben oui. Et alors ?
Mais non, c'est pas possible. Parce que...
Il y a une théorie qui veut, mais c'est à vérifier. J'ai lancé une enquête là-dessus.
Ce serait un chant corse revendiquant, enfin nationaliste. Donc le Nord, ce serait la France, c'est les colons.
La France, c'était les colons.
Mais je pense. À vérifier.
Dans le Nord, on fait des curieuses découvertes. Histoire incroyable. Ça se passe le long du canal de Roubaix. Et c'est un pêcheur allemand qui raconte. Il s'appelle Belkacem. Pêcheur allemand, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En gros, t'as pas une canne à pêche avec un
chien. Le mec envoie un aimant et qui vide les rivières et tout ça, de tout ce qui est. Ben, ce qui fait
un aimant hyper puissant, là. Donc habituellement, il ramène quoi? Ben, tu vois, des vélos,
des coffres forts, des fois.
Ouais, ben là, c'est pas ça. C'était dimanche, vers 16h, Belkacem. Donc, il pêche à l'aimant avec son ami. Ils font un dernier lancer parce qu'ils n'ont pas pris grand chose aujourd'hui. Et au bout de la ligne, il a accroché un truc hyper lourd. La suite, eh bien, il la raconte ce matin sur RMC.
Je sens mon aimant qui s'aimante fort et à quelque chose de lourd. Franchement, j'ai pensé un peu à un genre de cadavre. C'était dans un sac de couchage. Mon aimant, il était accroché à un halter. Et je prends un cutter et j'ouvre. Et là, je vois des écailles. Je prends peur sur le coup et j'ouvre un peu plus. Et là, un crocodile enchaîné. Bah, ça sentait mauvais. Ça sentait mauvais. J'ai commencé par appeler les pompiers qui, au début, pensaient que c'était une blague. Qui me disaient, vous êtes sûr que c'est un vrai? C'est pas en plastique ou en fer?
Non, c'était un vrai crocodile de 1m20. Donc évidemment, il hallucine. Alors, il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet de Lille pour savoir comment
il y a un gonze qui s'est
le crocodile a pu se retrouver au fond du canal de
Roubaix. Il y a un mec qui a élevé un petit crocodile, sauf que ça grandit et à un moment donné, il ne savait plus comment s'en débarrasser.
Elle
estouffade. Le calzone avec un croco au milieu.
Tu l'as fait, ça déjà.
Quand il passe, le pauvre croco qui était obligé de vivre à Roubaix. Oui, vaut mieux qu'il finisse comme ça. Je vais te dire un truc. Au moins, il n'aura pas souffert.
Et dans un instant, sans Vitinha, le PSG est-il aussi fort? Vincent Moscato règle le problème sur RMC.
Ouais, Sarah, tu rejoins ton bateau, là hein?
Oui, je vais monter au mât.
Oh la coquine! Allez, bonne journée. 15h56, le Super Moscato Show. On revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h,
le Super Moscato Show.